Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission du groupe Marie de Nazareth. Alors l'année est lancée, déjà deuxième émission de l'année. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine. Nous espérons que vous apprécierez les analyses de Justina, ses homélies, pouvons-nous dire d'une certaine manière. La semaine dernière, c'était sur la Nativité de la Vierge Marie. Et cette année, Justina, vous allez nous parler de...
Alors aujourd'hui, en tout cas, le sujet va être pourquoi nous pouvons être certains que Marie n'a pas eu d'autres enfants.
Ça, c'est très bien. Alors, écoutez bien, chers auditeurs, parce que parfois, on nous fait des réflexions sur le sujet. Donc là, nous aurons des arguments. Alors, la semaine dernière, nous évoquions l'attitude de l'Église face au miracle. Nous évoquerons cette semaine et la semaine prochaine, puisque nous ferons ça en deux parties, toujours avec Patrick Sbalchiero. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Les miracles eucharistiques, nous pouvons en compter énormément. Pour en savoir davantage, je vous présenterai à la fin de l'émission le mail hebdomadaire que vous pouvez recevoir tous les dimanches et que l'association Marie de Nazareth envoie à ceux qui souhaitent s'abonner. Alors, Justina, commençons par une lecture à voix haute, c'est ça ?
Oui, on va essayer. Donc, encore bonjour, chers auditeurs. Donc, nous sommes le 15 septembre et l'Église catholique romaine, dans le rite Paul VI, fête la Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc, la lecture du jour va correspondre à cette fête.
Alors,
sauf que
chez les Paul VI, ce sont les textes du dimanche qui sont lus.
Oui.
Et donc, ce sera demain la fête Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc, vous serez prêts à l'écouter.
D'accord. Bon, moi, j'ai
parce que les textes
du dimanche.
C'est la messe du jour, qui est célébrée avec les textes du dimanche. Et donc, la fête est repoussée au lendemain.
D'accord. Donc, c'est un report.
Voilà.
Je comprends la pratique, on fait pareil.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets du 25 au 27. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Je pense que vous me connaissez assez bien, afin de deviner que je ne vais pas analyser ce passage sous un angle qui est déjà connu du grand public, même si je ne suis absolument pas en désaccord avec l'exégèse classique de ce passage de l'Évangile. Bien sûr, Jésus-Christ confie sa mère à l'apôtre Jean, et à ce titre-là, si nous voulons être des disciples du Christ, elle est aussi donc notre mère à tous dans l'Église. Amen. Mais si je vous disais qu'on peut se servir de ce passage à des fins apologétiques, notamment vis-à-vis des personnes qui aiment bien s'attaquer au dogme de la virginité perpétuelle de Marie, en affirmant que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après avoir mis au monde Jésus-Christ. Oui, il est vrai que les évangélistes mentionnent les frères de Jésus, et notamment Jacques l'apôtre. La tradition occidentale perçoit qu'il ne s'agit pas de frères ou de demi-frères, mais de cousins ou d'autres membres proches de la famille, ce qui n'est pas totalement faux quand nous parlons de la culture du Moyen-Orient. Mais j'ai une autre hypothèse qui pourrait à la fois défendre le dogme de la virginité de Marie, expliquer qui sont les dix frères et peut-être nous donner une explication à une autre question fréquente, celle de pourquoi Jésus, étant dans son humanité un bon juif, n'a pas été marié. Partons de la vie de Joseph. Dans la tradition occidentale, on le présente comme un homme tellement pieux qu'il n'aurait jamais été marié. À titre personnel, je ne vois pas du tout pourquoi c'est ainsi, car il n'y a pas de crime à avoir été marié et devenir veuf, surtout vu le rôle important qu'il a joué dans la vie de Marie et de Jésus. Mais si nous prenons une source textuelle importante, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire le proto-évangile de Jacques, oui. Il est mentionné dans le proto-évangile de Jacques que Joseph était veuf au moment où il a été fiancé avec la Vierge Marie. Et comme je disais la dernière fois, cette source, certes, apocryphe, mais si on voulait la mettre à la poubelle, on devrait faire subir le même sort aux grandes fêtes mariales dont les sujets sont tirés de cet ouvrage. C'est la nativité de la Vierge Marie, oui. L'introduction de la Vierge au Temple. Et dans un autre texte apocryphe qui date du IVe siècle et qui se nomme « Histoire de Joseph le charpentier », le récit nous présente Jésus-Christ lui-même parlant de Joseph aux apôtres. Et je cite « Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la ville appelée Bethléem, qui est la ville du roi David. Il était bien instruit dans la sagesse et dans l'art de la menuiserie. Cet homme épousa une femme dans l'union du saint mariage. Il lui donna des fils et des filles, 4 garçons et 2 filles. Voici leurs noms, Jude et Josétos, Jacques et Simon. Les noms des filles étaient Lysia et Lydia. La femme de Joseph mourut et laissa Jacques encore en bas âge. Joseph était un juste qui rendait gloire à Dieu dans toutes ses œuvres. Je ne vais pas m'attarder sur ce texte, même s'il est très intéressant. Mais nous avons déjà au moins 2 textes non scriptuaires du premier millénaire qui affirment que Joseph avait des enfants de son premier mariage, qu'il a épousé Marie étant très âgé, et il s'est probablement endormi peu après les 12 ans de Jésus. C'est sa dernière apparition dans les évangiles canoniques. Et dans l'histoire de Joseph le charpentier, l'auteur décrit la mort de Joseph à l'âge de 111 ans.
Juste une petite chose, on pourra revenir un jour sur l'histoire de ces enfants de Joseph ?
Il faudrait voir sous quel angle on peut attaquer la question, mais pourquoi pas.
Volontiers, merci.
Et donc dans les évangiles canoniques, quand les frères de Jésus sont mentionnés, ils ont une attitude de grand frère et non de petit frère. Et comme il est totalement exclu que ce soit des grands frères nés de Marie, car pour elle, Jésus était son premier enfant, elle était naturellement vierge avant sa conception, on déduit que Jésus est un enfant unique de Marie. Revenons à présent à la lecture biblique du jour. Je vais enfoncer le clou dans cette affaire des présumés autres enfants de Marie. Selon la loi juive, une veuve n'hérite pas de son mari, mais seulement les enfants du père sont les héritiers légitimes, d'où une obligation des enfants adultes de veiller sur leur mère si elles sont veuves et si elles ne se sont pas remariées. Une seconde fois, Jésus, n'ayant pas d'autres frères et sœurs par sa mère, est obligé de transférer sa responsabilité filiale de prendre soin de sa mère, qui est veuve, et il désigne l'apôtre Jean. S'il avait des frères nés de Marie, il n'y aurait nullement besoin de confier sa maman à une personne extérieure à la famille. Ceci explique aussi d'une manière plus terre à terre, et donc plus convaincante, pourquoi Jésus-Christ pouvait difficilement se marier lui-même. Car selon la loi, son père, Joseph, décède. Déjà que sa famille ne roulait pas sur l'heure. Mais selon la loi, Joseph a encore 4 autres fils. Donc Jésus touche le 1/5 de son héritage et doit subvenir aux besoins de sa mère qui ne se remarie pas. Pareil, si elle était remariée, elle serait sous tutelle de son nouveau époux. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. La scène sous la croix nous le démontre. Tout cela pour dire qu'en connaissant un minimum le judaïsme, le contexte historique et les sources, on peut facilement avoir des contre-arguments contre les théories fallacieuses.
Eh bien, Justina, c'était une autre manière de voir les choses. Merci beaucoup. Nous allons écouter à présent les DAC dei Amoris Cantores. C'était une magnifique chorale qui nous manque. Malheureusement, on ne les entend plus. Je vous invite à vous procurer quand même leur CD. C'est vraiment très beau. Donc, écoutons à présent Hostia Sancta, composée par Tanguy Dionis du Séjour.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors voilà un titre bien nommé, Hostia Sancta, pour parler à présent, cher Patrick, des miracles eucharistiques. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages. Un auditeur que je salue, Michel, me demandait où nous pouvions trouver vos livres, car il a beaucoup aimé nos précédentes émissions. Alors la réponse est dans toutes les bonnes librairies, c'est ça? Mais hélas, vous avez déjà de nombreux livres qui n'ont pas été réédités.
Oui, alors là,
il faut faire quelque chose là. Alors, dites-nous Patrick, un miracle eucharistique.
Alors, un miracle eucharistique, c'est un miracle dans lequel une hostie ou plusieurs hosties consacrées, et j'insiste sur le mot consacré, je vais y revenir, sont impliquées.
Est-ce que le sang de Jésus, il y a déjà des choses, je veux dire, dans le calice, est-ce que le sang, il y a déjà eu des phénomènes ou rien
oui,
du tout?
Oui, oui, ah, tout oui, à fait. Tout okay.
Bon, pardon, j'ai fait un aparté, mais d'accord.
Et donc, alors, j'ai établi une petite typologie, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous la citer.
Nous avons deux émissions.
De mémoire. Il existe en fait 10 manifestations différentes donc dans le cadre de ces miracles eucharistiques.
Oui.
Les deux les plus célèbres ou les mieux documentées. La première, c'est l'hostie qui se transforme en chair,
oui.
Sur laquelle apparaît des gouttes de sang. Parfois même du sang s'écoule de l'hostie. Mmh. Ça, c'est la première manifestation la plus répandue. La deuxième, l'hostie disparaît et les témoins voient avec certitude le visage notamment du Christ apparaître. Mmh. Une substitution donc... entre ces deux choses. Et c'est vraiment très frappant et très impressionnant. Et il en existe bien d'autres, hein, des hosties qui convertissent. Alors c'est Jésus qui convertit, mais voilà.
Oui, oui.
Donc, qui guérissent également. Il suffit de penser, par exemple, eh bien, aux processions à Lourdes, processions du Saint-Sacrement, au cours de laquelle eh bien, il se produit des guérisons, notamment.
Ah, oui.
Voilà, donc ça, c'est tout à fait extraordinaire.
Alors, je rappelle que l'Église n'oblige pas à croire dans ces miracles, hein. C'est vraiment, c'est pas de l'ordre du dogme.
Non.
Chacun est libre d'y adhérer ou non. De nombreux croyants, du reste, n'aiment pas le miracle. Voilà, on voit aussi des prêtres qui cherchent à éviter le sujet. Néanmoins, je pense que ces manifestations permettent quand même d'entrevoir un au-delà, quelque chose qui dépasse complètement tout ce qui est humain. Combien en a-t-on recensé?
Alors, c'est assez difficile d'établir un chiffre extrêmement précis, mais tout de même, au jour d'aujourd'hui, il y aurait environ 135 lieux différents à travers le monde où se serait produit un miracle eucharistique. Ça peut paraître peu, en fait c'est beaucoup. C'est beaucoup parce
c'est pas mal,
ce sont des... En général, évidemment, les supercheries et autres...
sont mises de côté.
Oui. Là, il s'agit véritablement de 135, environ 135 phénomènes parfaitement documentés, souvent analysés et souvent reconnus également par l'Église.
Le plus ancien, qu'est-ce que c'est, l'Anciano?
Alors, l'Anciano est considéré comme le plus ancien. J'en ai, si vous voulez, encore un plus ancien.
Je veux bien.
Alors, il y a un peu moins de documentation qu'à l'Anciano, mais tout de même, on est au VIe siècle sous le pontificat de Saint Grégoire le Grand.
Oui.
Et dans une basilique romaine, lors d'une célébration d'une messe par le pape, Saint Grégoire, eh bien, il y a eu, on peut dire, un miracle eucharistique. Un miracle eucharistique, l'hostie donc se transformant en chair et le vin du calice se transformant en sang.
Alors, n'était-ce pas ce prêtre qui doutait dans la présence réelle?
C'est plutôt à l'Anciano. Saint Grégoire, lui, n'a jamais douté.
Okay.
À ma connaissance, Saint Grégoire n'a jamais douté.
D'accord.
Alors, à l'Anciano, nous sommes au 8e siècle.
Oui, alors parlez-nous de l'Anciano, parce que c'est connu, mais je ne sais pas si tous nos auditeurs...
C'est vraiment
Et puis surtout, on peut y aller.
Et surtout, on peut y aller, bien sûr. Ce qu'on appelle les reliques eucharistiques, c'est-à-dire les hosties concernées, sont toujours...
visibles.
Voilà, tout à fait.
Ça, c'est extraordinaire.
Depuis le 8e siècle, quand même.
Ouais.
C'est incroyable. Mmh. Alors, nous sommes donc à l'Anciano. C'est une petite bourgade des Abruzzes, sur la côte adriatique, en Italie. Et là, vous avez un prêtre, alors il appartient, c'est un prêtre basilien, un prêtre, qui se met à douter fortement depuis quelque temps de la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Et un beau jour, il célèbre la messe, et puis, qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, l'hostie est changée en un morceau de chair avec du sang également qui s'écoule. Alors, ces reliques, ces hosties ont été conservées. Elles sont conservées depuis le XIIIe siècle dans une église qui a été bâtie, donc qui a remplacé l'église ancienne du 8e.
Oui.
Et elles sont composées, ces reliques, eh bien, d'un morceau de chair qui est exposé dans un reliquaire très beau, et de 5 caillots de sang séchés. 5 caillots de sang que l'on peut encore, évidemment, regarder. C'est l'église donc qui a été dédiée à Saint François, à Lanciano, au XIIIe siècle. Alors, c'est incroyable parce que, on en parlera peut-être, mais des analyses de sang ont été faites sur ce miracle, sur ces hosties de Lanciano dans les années 1970.
Oui, donc c'est récent par rapport au miracle.
Et les analyses ont établi qu'il s'agissait de sang humain de type AB+. Mm-hmm. Le type AB+, c'est un type rare qui est assez majoritairement représenté en Palestine.
D'accord.
Ah, ce n'est pas du hasard, je ne sais pas. Deuxième chose, ce groupe AB+, se retrouve également dans d'autres miracles eucharistiques, et notamment sur le linceul de Turin.
Sur le suaire.
Sur le suaire de Turin, donc les analyses ont révélé cette affaire-là. Et c'est très surprenant. Pourquoi du groupe AB+, type sanguin, que l'on retrouve fortement, dans une proportion bien plus supérieure en Palestine qu'ailleurs? Là aussi, mystère.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que nous avons trouvé d'autres groupes sanguins sur d'autres
Ah, ça, c'est une question. Ça, c'est une question redoutable.
Pardon.
Alors, c'est une question redoutable. À ma connaissance, non.
Ouais,
à ma connaissance, ça. Non. Bon, les miracles eucharistiques très anciens, ou du moins avant le 19e siècle, on ne faisait pas des analyses de ce genre déjà.
Oui, mais donc, sur le suaire, nous avons pu quand même prélever.
À ma connaissance, non.
D'accord.
À ma connaissance, non. C'est donc très, c'est très incroyable. Quand même.
Oui. Alors, on parlait de Lanciano et j'ai vu en préparant cette émission que le 12e et 13e siècle, mais le 12e siècle surtout, il y a eu beaucoup de manifestations eucharistiques. Alors, Ferrare, Alatri, Darroca, Bolsena, Ofida, Les Billettes, Ocebrero, Zimbala, voilà, des miracles sanglants.
Oui.
Ça s'explique, ça ? Ou alors, qu'est-ce qui se passait à cette époque pour qu'il y ait besoin, qu'il y ait autant de... Est-ce que c'est... Il y avait un problème avec l'Église ou
Alors, il n'y a pas de problème avec l'Église. Par contre, il y avait des problèmes avec certains théologiens, je pense. voilà. En fait, vous avez, à la fin du XIe siècle, un certain Béranger de Tours.
Oui.
Béranger de Tours remet, dans une certaine mesure, en question... la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors, ce n'est pas aussi, sa théologie n'est pas aussi brutale que cela, mais je dis les choses vite. Et l'Église est obligée, en matière doctrinale, bien sûr, de surveiller et de contrer, dans une certaine mesure, ces affirmations.
Oui.
Et puis, deuxième cause, alors là, un tout petit peu plus tardive, à partir du milieu du 12e, avec les cisterciens, puis les ordres mendiants, dominicains, franciscains, au début du XIIIe siècle, tous les états de vie de Jésus de Nazareth, tous les états de vie sont en quelque sorte, deviennent des objets de dévotion. Donc l'humanité du Christ est de plus en plus. Il y a chez les franciscains, c'est l'époque, par exemple, avec les crèches de Noël.
Bon. Oui.
Mais jusqu'à la passion, jusque dans sa passion, bien sûr, avec toutes ses souffrances.
D'accord.
C'est quelque chose qui est incorporé, vraiment incorporé dans la dévotion catholique et la dévotion populaire. Donc je crois que ces deux facteurs, théologie eucharistique et puis dévotion sur ces états de vie, eh bien, font que on surveille de plus en plus, hein, on contrôle de plus en plus ces affaires de présence réelle. Et il est vrai que vous avez entre le 12e, 13e et même un peu après, 14e, eh bien une floraison,
une
recrudescence de miracles.
D'accord. Alors il y a eu d'autres manifestations assez étonnantes. Alors à Douai, c'est une hostie qui retourne dans le ciboire en se soulevant toute seule. À Rimini, une mule qui s'incline devant le Saint-Sacrement. À Cracovie, des hosties lumineuses.
Oui, oui. Ça c'est très rare. C'est très rare, mais ça, voilà.
Voilà, donc vous le disiez tout à l'heure, des apparitions du Christ dans les hosties. On va faire un saut dans notre époque, hein, car c'est toujours la même chose. Nous entendons dire, oui, c'était comme ça autrefois, on ne pouvait pas faire de recherche, donc on croyait n'importe quoi. Et puis on se rend compte qu'il y a eu des miracles à Bethania en 91, à Buenos Aires en 96, 2001, Trivandrum, je ne sais pas comment on dit, en Inde. Aussi, alors 2006, Mexique, 2013, Pologne, très récemment 2023. Alors, on en avait parlé le 5 mars 2023 dans le Connecticut, oui, à la paroisse Saint-Maximilien Colbé, avec la multiplication d'hosties, pour laquelle on peut trouver des informations sur Internet. C'était très touchant parce qu'on voit le prêtre à la fin de la messe qui dit « Il faut quand même que je vous dise quelque chose, c'est passé. » Voilà, Et puis, bon signe, on n'en entend plus parler, donc ça veut dire qu'il y a sans doute une enquête. Vous parliez tout à l'heure de guérison, oui, par l'Eucharistie avec le muet de la Rochelle.
Oui.
Et puis plusieurs, il y en a une qui m'a amusée parce qu'il y avait un facteur en 1900 qui était devenu paralysé suite à un accident de travail et puis il était guéri subitement. Et la meilleure preuve fut le refus des PTT à l'époque de continuer à lui verser une prime d'infirmité. Voilà, et puis il y a des conversions aussi.
Bien sûr, il y a des conversions. Moi, j'aimerais revenir, si on a juste en une minute.
Oui, bien sûr, nous avons trois minutes, Patrick.
Le miracle eucharistique de Bordeaux, oui, en 1822. On recule un peu dans le temps, mais c'est un miracle qui a été reconnu, hein, par l'archevêque de Bordeaux en bonne et due forme.
Oui.
Donc, c'est juste une chose. Eh bien, dans la chapelle des religieuses de la Sainte Famille,
oui,
rue Mazarin, pour celles et ceux qui connaissent à Bordeaux, le 3 février 1822, un phénomène qui dure 20 minutes.
Ah oui, c'est
montre
long.
En main, imaginez.
Oui.
Vous allez voir surtout le phénomène. Eh bien, le buste, selon les témoins, le buste d'un homme jeune, très très beau, jeune, lumineux, hein, se substitue à la hostie.
Quelle époque ?
1822, 3 février 1822. Oui. Et j'ai le témoignage de l'abbé Delors, qui était à l'époque la personne, enfin le prêtre qui officiait.
Oui.
Et il dit, j'exposais le Saint-Sacrement, à peine avais-je terminé le premier encensement, qu'ayant porté les yeux sur l'ostensoir, je n'aperçus plus les saintes espèces, à leur place le Seigneur lui-même, au milieu du cercle qui lui servait de cadre, comme portrait peint en buste.
Incroyable.
C'est incroyable. Hein. Mmh. Et alors, il ajoute, pour finir, et là, ça donne un peu la vérité du prodige.
Oui.
Hein. Je crus d'abord que c'était une illusion. Mais le miracle continuant, il a demandé à l'enfant de cœur qui tenait l'ostensoir à côté de lui, eh bien...
Ce qu'il voyait.
Ce qu'il voyait. Et le petit garçon voyait la même chose.
Mais alors, il a dû y avoir un mouvement de foule dans l'église, non ?
Alors, mouvement de foule, ça a été un petit peu la... Disons, une stupeur mesurée.
Oui.
Une stupeur mesurée. Il y a eu une enquête ensuite très poussée.
Oui.
Et le Monseigneur Davio, archevêque de Bordeaux, a reconnu le miracle.
On n'en entend pas parler de cette histoire.
Et il existe une petite littérature. Le père, oui, Bernard Pérouse, longtemps, avait fait un beau livre là-dessus, bien documenté. C'est resté tout de même comme l'un des miracles où il n'y a pas eu trop de difficultés, de discussions au cours de l'enquête, etc. Et les choses, voilà, c'est incroyable.
Quand même, nous avons un pays qui a été tellement visité par le ciel.
Oui.
Alors, je vous propose de terminer par une petite... avec Charles de Foucault. Mais merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appris tant de choses. Voilà, sur cette Eucharistie que de trop nombreuses personnes ne considèrent pas comme elle doit l'être. Recevoir Jésus hostie, quoi de plus vivifiant. Donc... Charles de Foucault, recevons Jésus notre vie, le plus souvent qu'il dépendra de nous. Recevons notre bien-aimé en préparant le mieux possible notre âme à sa visite. Recevons-le en lui faisant le meilleur accueil possible, comme on reçoit le bien-aimé, non seulement venant à nous, mais venant en nous et se donnant, se livrant, s'abandonnant pour être totalement possédé par nous. Merci, chers auditeurs, à mercredi prochain. Merci Patrick, merci Yousina.
Merci.